goût du monde, Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans le goût du monde, le goût du bonheur aujourd'hui. Oui, vous avez bien entendu, le goût du bonheur d'une jeune femme exploratrice, déterminée, aimante, revenue chez elle en Provence, cuisinier dans l'auberge de sa mère, Rennes, avec beaucoup d'amour et de liberté. Et ce n'est là que le début. Bonjour Nadia Samut.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous depuis l'auberge de la Fenière, qui voit se succéder trois générations de filles, de femmes au fourneau, votre grand-mère, votre mère et maintenant vous. Un restaurant, une auberge, mais bien plus que cela, et c'est ce dont on va parler tout au long de cette émission. Une étoile, et une première étoile verte qui a été décernée au début de l'année pour saluer une cuisine durable et responsable, une alimentation durable. Déjà, je voudrais juste préciser à ceux qui nous écoutent que vous êtes un petit peu une pionnière dans la révolution culinaire. Et c'est pas vraiment un grand mot, parce qu'on pourrait dire « ah là là, tout de suite les grands mots ». Non, pas du tout. Je dirais que vous êtes en avance parce que vous êtes résiliente. En avance parce que vous portez un autre regard sur ce que l'on consomme, sur notre alimentation, et résiliente parce qu'à l'origine, il y a, c'est vous qui allez nous le raconter, qu'est-ce qu'il y a à l'origine de l'origine ?
À l'origine de l'origine, il y a moi, en fait, ce personnage, cette personne qui porte effectivement sa vie très personnelle, avec beaucoup de liberté. Et je suis née malade cœliaque, intolérante au gluten, avec des problématiques immunitaires assez importantes, qui ont fait effectivement de moi certainement cette personne résiliente qui toujours pense au positif et à la volonté de vivre et de ne pas survivre.
Même de transformer éventuellement.
Je pense qu'en fait, effectivement...
Parce que c'est ça, je crois, la résilience.
C'est ça, c'est faire de cette difficulté des moments, je dirais, de difficulté, quelque chose d'ultra positif et de toujours le construire en fait avec cette vision-là.
Donc ça veut dire, si on vous comprend bien, puisque vous êtes allergique, qu'il y a des allergènes, c'est pas juste une intolérance.
Oui, si c'est une intolérance, l'intolérance au gluten, c'est une maladie enzymatique en fait dans l'intestin du système immunitaire. Et on n'a pas d'enzyme qui digère le gluten, et on appelle ça une intolérance. Et l'allergie alimentaire, ça concerne ce qu'on appelle l'IgE, l'immunoglobuline E, avec une réaction du corps, avec un anticorps, en fait, anti-l'allergène. Et donc, moi, je ne suis pas allergique au gluten, je suis intolérante avec une maladie auto-immune de l'intestin grêle.
Mais ça, vous l'avez découvert, ça a été long comme recherche du diagnostic pour comprendre un peu ce mal dont vous souffriez? J'en parle parce qu'il y a plein de gens qui sont concernés, en fait, sans savoir, forcément. Et je crois que toute votre cuisine s'élabore aussi en réaction à ça.
Oui, tout à fait. Alors, moi, on l'a découvert très jeune, en fait, lors de la diversification alimentaire. Ma mère s'est rendue compte que j'avais des problèmes assez importants. D'abord, je grossissais pas, je grandissais pas. Et surtout, je ne le digérais pas. Donc, j'étais très, très, très maigre. Et en fait, à ce moment-là, je vais avoir 40 ans cette année, donc à l'époque, la pathologie était très peu connue. Et les médecins ont du mal à trouver en fait ce que c'était. D'ailleurs, ils pensaient qu'à un moment donné, que c'était une leucémie. Donc, j'ai vécu comme un bébé plutôt avec des problèmes de santé. Donc, pour une famille un peu difficile. Mais finalement, à un moment donné, on a réussi à mettre un mot sur ce mal et à trouver effectivement la problématique du gluten corrélée à ça. Et à l'époque, mes parents devaient aller chaque semaine à l'hôpital chercher le pot de farine ou de ce qu'on pouvait utiliser, parce qu'on connaissait très peu les farines aujourd'hui que l'on connaît. Et je me nourrissais comme ça. Et ma mère avait une attention très particulière à mon alimentation, aux plats qu'elle fabriquait exprès pour moi, et y mettre toujours ce goût du bonheur et cette intensité d'amour, en tout cas, pour nourrir et pour me nourrir. Voilà.
En tout cas, quand il y a eu un mot sur votre maladie, ça a été pour vous le détonateur de recherche d'autre chose, d'alternatives. Comment vous avez réagi quand vous avez su?
Alors, quand j'étais petite, on le savait, mais moi, j'étais trop petite pour comprendre. Donc, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 8 ans en mangeant sans gluten, comme un enfant qui a cette problématique. D'ailleurs, je n'ai pas que le gluten parce que je ne mange pas non plus de lactose et très peu de sucre, qui est un problème aussi pour moi dans cet acte de digestion et d'assimilation. Et en fait, à cet âge-là, je ne le savais pas. En fait, je connaissais pas très bien les choses. J'étais un enfant. Mais en tout cas, je savais que je ne pouvais pas manger ces choses-là et qu'elles me faisaient du mal. Et que très naturellement, je n'y étais pas du tout intéressée. Et puis, donc, vers l'âge de 8 ans, les médecins ont pensé que j'allais beaucoup mieux. Et ont dit à mes parents que mes villosités intestinales avaient repoussé et que j'allais très, très bien et qu'il fallait que je mange comme tout le monde. Et donc, bah, j'ai mangé comme tout le monde, parce que j'ai mangé, moi, du gluten, des pizzas, des pâtes, comme tout le monde, puisque le gluten, c'est la partie protéique qu'on trouve dans le blé, le seigle, l'orge, l'avoine, l'épeautre et les blés anciens également. Et en fait, en mangeant comme tout le monde, j'ai empoisonné, entre guillemets, mon corps pendant 20 ans, puisque cette pathologie était silencieuse, mais elle n'était pas partie. Et c'est à l'âge de 30 ans que je suis retombée malade assez, de manière très importante. Avec des pathologies immunitaires corrélées à cette maladie cœliaque. Et en fait, c'est là que j'ai découvert mon monde, en fait. J'ai compris que, effectivement, je ne pouvais pas manger comme les autres, que mon corps et que ma physiologie et ce que j'étais n'étaient certainement peut-être pas comme d'autres. Et c'est là que mon monde est né et que j'ai commencé à rechercher, en fait, comment vivre dans ce monde qui m'appartenait et comment l'ouvrir aux autres, puisque celui des autres ne pouvait plus s'ouvrir à moi.
C'est ça un peu, c'est un peu une lumière qui se fait. Et au lieu que ce soit comme une condamnation, au contraire, c'est une révélation qui permet d'aller plus loin en fait.
Oui, c'est une ouverture extraordinaire. D'abord, la quête de soi, c'est une chance absolue de comprendre que, en fait, c'est un chemin de vie. Et alors, à ce moment-là, quand on vit complètement ce que l'on est, on a cette grande liberté qui s'ouvre et la contrainte devient plutôt un grand tunnel, une très belle ouverture et une vie, en fait, totalement en phase avec ce que l'on est. C'est aussi ça, la résilience.
Et c'est toujours étonnant d'ailleurs combien l'enfant naturellement en fait va spontanément se détourner des choses qui lui font du mal quand c'est son corps et totalement spontanément où il va prendre un médicament parce qu'il sait que c'est bien et spontanément il le sait. Vous avez voyagé du coup, je crois.
Moi, je voyage toujours déjà beaucoup parce que je suis quelqu'un qui aime aller au contact des autres et essayer de comprendre. Je suis passionnée d'anthropologie et des systèmes de vie. D'ailleurs, à l'issue de cette pathologie, quand j'ai été très fatiguée, j'ai passé 2 ans entre parenthèses de 2009 à 2011. Et à l'issue de ça, j'avais lu un livre passionnant qui s'appelle La société des individus de Dorbert Elias. Et c'est vrai que ce livre-là m'a permis de comprendre le lien entre la société et les individus. Est-ce que l'individu fait les sociétés ou la société fait les individus, conduit les individus? Et moi, en fait, ne pouvant plus être conduite de la même façon, j'ai décidé de créer ma société, ma communauté, en fait, d'individus et de l'ouvrir. Et effectivement, à ce moment-là, j'ai beaucoup voyagé quand j'ai pu me remettre sur pied. Et c'est vrai que j'ai voyagé au Brésil, j'ai voyagé au Japon, j'ai voyagé en Amérique du Sud, j'ai voyagé en Europe énormément également, évidemment. Et en fait, je suis allée à la rencontre des gens pour comprendre, quand on a une éviction alimentaire, comment était perçue cette chose-là dans les familles, dans les lieux de vie, quelle expérience culinaire j'allais retrouver qui me permettrait à moi aussi de manger et de partager la même table que les autres. Et ces voyages, évidemment, ont enrichi complètement ma palette imaginaire de saveurs, de goûts et de rencontres et d'émotions, du coup, parce que l'important dans tout ça, c'est l'émotion, parce qu'après, on va la retransmettre, la retranscrire aussi. Et mon pèlerinage a effectivement commencé d'abord par ces voyages. Et je me suis rendu compte surtout que la réponse universelle, c'était toujours l'éviction amène l'exclusion de la table, c'est-à-dire que on va faire un plat particulier pour la personne qui a une pathologie, on va faire un truc particulier où on va lui dire tu es différente.
Avec un souci, paradoxalement, d'attention et d'amour, mais assez maladroit, en réalité.
Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai vécu moi alors qu'on pensait me faire plaisir. Et moi, j'avais l'impression toujours d'avoir l'assiette différente. Et en fait, tout ça n'est pas. On peut complètement vivre les choses complètement différemment. Et c'est un petit peu cette réponse universelle que j'ai envie d'apporter dans Cuisine libre.
Cuisine libre. Alors, on va parler de cuisine libre, évidemment. Vous vous êtes rendu un petit peu en Afrique.
Alors, j'ai pas fait Afrique subsaharienne, j'ai fait Afrique du Nord et beaucoup. D'abord parce que je suis ma famille vient de Tunisie, donc assez naturellement. Non, mais j'ai fait aussi beaucoup le Maroc et l'Algérie parce que je suis allée rechercher aussi des connaissances, des choses. Je lisais beaucoup et je m'étais rendu compte qu'on utilisait déjà dans l'agriculture des ingrédients qu'on n'utiliserait pas de manière très naturelle comme ça, comme le cactus. pour en faire de la semoule, ou le gland avec lequel on va faire également une semoule. Il y avait des éléments comme ça qu'on utilisait de manière assez naturelle, parce que parfois la récession, parce que la guerre, ou parce que pas de produits, etc. Donc les gens, par résilience, ont utilisé des ingrédients totalement naturels, issus justement de ce que la nature peut nous apporter, pour en créer aussi des moments de table, des émotions, des expériences. Et effectivement, oui, j'ai appris de là aussi.
Est-ce que du coup, et vous avez, au gré de votre pèlerinage, rencontré des gens comme ça qui vous ont expliqué la manière d'aborder les choses, qui vous ont fait découvrir, peut-être au Brésil. Je pense au Brésil parce qu'il y a beaucoup de haricots, parce qu'il y a beaucoup de produits, il y a du manioc, il y a beaucoup de choses qui sont sans gluten.
Oui.
Et est-ce que vous avez justement été guidé un petit peu dans votre recherche? Parce que quand on regarde un petit peu ce avec quoi vous travaillez aujourd'hui, on se dit ça a été le fruit de découvertes et de découvertes.
Alors oui, complètement. Déjà, je suis allée comprendre ce qu'on utilisait de manière assez naturelle et culturelle. Parce que ce qui est important, en fait, c'est l'ancrage lié à l'alimentation. Quand on utilise des choses qui viennent de notre territoire, on se rend compte aussi qu'il y a des recettes qui émanent de ça et qui ont créé des émotions auprès des gens. Et c'est des madeleines de Proust qui conduisent aussi l'éducation alimentaire. Et je trouve que ça, c'est fondamental.
Bien
Et
sûr.
Pour moi, qui avait dû couper un petit peu mes relations à mes madeleines de Proust, puisque j'ai eu comme ça cette période de vie, je suis allée comprendre les émotions des gens, rattachées aussi aux techniques et au goût et aux produits qu'ils utilisaient. Alors oui, au Brésil, il y a du manioc, il y a de l'amarante, il y a la patate douce, il y a plein de choses que les gens utilisent. Effectivement, où j'ai vu les gens travailler avec le pão de queijo qu'on mange au Brésil, qui est au tapioca et au fromage, ou des choses comme ça. Bien sûr, je suis allée voir et comprendre. Ça m'a d'abord inspirée le fait que on pouvait utiliser des ingrédients qui contiennent effectivement pas de gluten et qui peuvent être délicieux. Donc, c'était des belles expériences pour moi. Cependant, moi, en France, je n'ai pas ces ingrédients et je n'ai pas l'envie d'utiliser des ingrédients qui viennent de l'autre bout du monde pour créer des expériences culinaires dans mon lieu. Donc, moi, ben, je suis revenue et j'ai commencé à m'inspirer, par exemple, après le Japon, du soja. Moi, je suis revenue, j'ai travaillé le pois chiche. Parce que le pois chiche est une légumineuse qu'on peut utiliser de la même façon. Donc, j'ai commencé à faire mon miso de pois chiche. Puis, j'ai fait mon tofu de pois chiche qu'on appelle le tohu en Birmanie. Et puis, je l'ai utilisé pour faire mes crèmes pâtissières ou mon lemon curd. Enfin, tout est arrivé comme ça, en fait. Mais ce que j'ai appris de ces voyages, c'est que des émotions s'étaient dégagées et m'avaient permise d'avoir des émotions culinaires, comme d'autres, sur des ingrédients incroyables que je rencontrais dans les pays que je connaissais pas. Et moi, ici, dans mon pays et dans mon territoire, ce que je crée, c'est des filières agricoles qui vont ramener là des madeleines de Proust, parce qu'un Méditerranéen à qui vous faites manger du pois chiche, c'est quand même incroyable, parce qu'il y a des histoires, des récits, des souvenirs autour de ça.
Des recettes, bien sûr.
Voilà.
Il y a un ADN qui se réveille.
Exactement. Et je trouve ça extraordinaire. Et surtout, quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui vient vivre une expérience culinaire dans votre région, ben, en fait, ce qui est important, c'est de lui donner la plus belle expérience de terre que l'on puisse avoir avec des ingrédients qui sortent de notre territoire.
C'est beau, ça.
C'est vécu.
Et c'est partagé. Alors, là où vous êtes, pas très loin, il y a du riz.
Oui.
Qui a été importé. L'histoire du riz en France n'est pas une histoire de toujours. On est d'accord.
Non.
Cependant, le riz, quelle place y a-t-il dans votre cuisine aujourd'hui?
Déjà, donc, le riz en Camargue, effectivement, le riz, il a une place importante dans ce que je vais faire de pâtisserie, de panification, de, je dirais même, de texture, de base. C'est vrai que je l'utilise assez de manière importante. Mais si j'étais dans une région qui n'en avait pas, j'aurais fait autrement.
Bien sûr.
Faut le savoir. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait parce que sur mon territoire, j'en ai trouvé. Et d'ailleurs, comme on sait, il existe beaucoup de variétés. Effectivement, j'utilise la variété que je trouve ici, ce riz de Camargue, avec ses différentes semences, le riz rouge, le riz complet, semi-complet. Enfin, je vais tout utiliser d'ailleurs en plus. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que chez moi, ça a pris une part importante. J'adore son côté minéral. Il va apporter un croustillant, il va apporter ce sableux dans une pâte à tarte sablée où traditionnellement on utilise quand même une farine la moins glutineuse possible pour avoir cette sensation. Il va apporter aussi une glycémie donc qui contrebalance complètement l'importance d'utiliser un sucre texturant en fait. Et moi, je constitue mes éléments comme ça, avec beaucoup de conscience. Je perçois les choses. Et le riz, effectivement, aujourd'hui, j'ai créé des matières incroyables avec le riz dans mon atelier.
Je voudrais juste savoir, donc vous êtes rentrée en France après ce voyage, où vous êtes donc trouvé un nouveau vocabulaire culinaire presque, avec des émotions que vous êtes rapportées et vous êtes approprié celles de votre région à nouveau. Réapproprié, est-ce qu'on pourrait dire ça?
Ouais, je me les suis complètement réappropriée, oui.
Alors, il y avait une auberge avec votre mère au fourneau. Comment est-ce que ça s'est passé, justement? Comment est-ce qu'on est? Non, mais c'est vrai! Parce qu'on se dit, voilà, elle revient, elle se met en cuisine. Comment est-ce qu'on explique? Comment est-ce qu'on raconte? Comment est-ce qu'on fait goûter? Comment ça se passe?
Alors déjà, moi, justement, pendant toute cette période de ma vie, dans le passé, j'appréciais absolument pas les moments de table. J'avais un problème d'écœurement permanent et les volatiles dans les cuisines, c'est-à-dire ces odeurs qui se dégagent des casseroles, pour moi, c'était très, très compliqué. C'est-à-dire, j'avais mal au cœur tout le temps. Et c'est au moment de cette prise de conscience et de cette envie de comprendre et de me nourrir positivement et de le transmettre ensuite, donc nourrir l'autre, que j'ai décidé de rentrer en cuisine. Moi, j'ai fait des études de chimie et de biochimie en fait à l'université. Ensuite, j'ai préparé mes concours pour faire nez dans les parfums parce qu'en fait, justement, j'avais l'odorat qui était beaucoup plus développé que le goût parce que j'avais ce
Pour
problème, voilà,
compenser.
pour compenser. D'ailleurs, je faisais beaucoup de dégustations à l'aveugle quand j'étais petite et je bluffais les gens et mon père, il n'en pouvait plus de m'amener dans les endroits. C'était assez marrant. Mais
Il paraît que c'était un des dons de votre grand-mère aussi.
exactement, j'avoue, hein, on assaisonne en sentant les recettes, mais pas en les goûtant dans les casseroles ou tout ça. Donc c'est vrai qu'elle me l'a transmis parce que je fonctionne comme ça aussi. Et c'est vrai que ben quand je suis revenue de tous ces périples, j'ai accompagné quand même quelques entités de la cuisine, de la gastronomie ou de l'artisanat de bouche vers cette conscience alimentaire et ce projet que je portais, hein, en accompagnant boulanger, le restaurant Noglu à Paris, etc. au départ. Et ensuite, j'ai dit à mes parents, écoutez, en fait, ce que j'ai vraiment envie, c'est de venir ici. D'abord, un, parce que je suis née sur ce territoire et que je me sens complètement l'envie de venir vivre ici et de porter mon projet dans ma région. Parce que c'est un vrai projet agricole et culinaire, mais agricole en premier, parce que voilà, c'est pour moi, c'est fondamental.
C'est tout un ensemble.
C'est un écosystème vivant, un biome, j'appellerais ça. Et ensuite, j'ai dit à ma mère, écoute, voilà, j'ai envie de rejoindre la maison et de la reprendre parce que bah eux arrivaient à un âge où ils allaient se poser la question de la transmettre ou un jour de la vendre. Et je leur ai dit, moi, pour moi, ce serait vraiment douloureux de vendre ce lieu où, ben, quand on est enfant de restaurateur, en tout cas chez nous, on vit avec nos parents de manière très, très proche. Et c'est toute notre vie, c'est tout l'écosystème, c'est toutes ces rencontres au quotidien, parce que quand on a un restaurant, on rencontre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et cette énergie vitale, là, comme ça, je pouvais pas m'en couper.
Bien sûr.
Donc, j'ai dit à mes parents, je vais le reprendre. Mais comme je revenais de cette pathologie, pour eux, ils m'avaient vu vraiment très, très mal. Ils se sont dit, mais putain, c'est énorme, c'est un bateau, ce truc, tu vas pas pouvoir le faire, quoi. Ça va être trop compliqué pour toi, pourquoi, etc. Fais des choses qui te plaisent, mais peut-être plus simples pour ton, voilà, d'énergie plus facile et tout. J'ai dit, non, non, moi, je vais remonter cette entreprise, je vais la porter et puis je vais l'amener vers ce que j'ai envie, c'est-à-dire nourrir l'autre, avoir un impact sur cette planète et sur l'humain et travailler avec cette cuisine en conscience qui est la mienne. Certainement très éloignée de celle de ma mère, mais qui porte aussi tout dans son ADN.
Et du coup, ça s'est opéré comment? Vous avez fait goûter? Vous êtes lancé comment? Est-ce qu'il y a déjà eu une adaptation, une sorte de transformation des plats pour voir comment est-ce que vous alliez justement vous lancer?
Alors oui, ça a été progressif, hein. De toute façon, il faut savoir que bon, Rome ne s'est pas faite en un jour et qu'il faut apprécier aussi le chemin que l'on parcourt pour arriver justement à ce qu'on a envie de réaliser. Et moi, je fonctionne très comme ça, je suis toujours dans l'instant présent. Donc, quand je suis arrivée en 2015, j'ai dit, OK, je suis née dans ce milieu, je n'ai pas fait d'école de cuisine, ma mère non plus d'ailleurs, ma grand-mère encore moins. J'ai dit, bah, je vais venir d'abord venir transformer les choses. Donc, effectivement, déjà, il a fallu que j'enlève tout ce qui pouvait contenir du gluten dans la cuisine. Et puis, j'ai transformé la cuisine complètement puisque tout le matériel ne devait pas être contaminé pour moi. Donc c'est très particulier, très compliqué pour quelqu'un qui est vraiment malade. Puis après, j'ai proposé de faire le pain et ensuite de commencer à faire les pâtisseries. Et pendant ce temps-là, en fait, je créais des bases, des techniques, des trucs qui me sont très propres, hein, parce que voilà, je peux pas cuisiner de la même façon. Et au fur et à mesure,
chercheur, cuisinière.
c'est ça. Je suis plus exploratrice qu'autre chose. Et parce que l'explorateur, il se lance dans des choses qu'il ne connaît pas, et je trouve que c'est ça qui est assez génial. Et donc, je reprenais des plats familiaux et je transformais quelque chose. Je commençais à rechercher mes madeleines de Proust, dans la cuisine familiale. J'essayais de retrouver les émotions. Et puis quand je les trouvais, je les partageais. Et puis j'ai commencé à voir les gens avoir les yeux qui brillent chez moi. Et là, je me suis dit, bon, ça veut dire que peut-être que j'arrive aussi à transmettre des émotions comme ma mère sait le faire. Et je me suis appliquée à le faire, à essayer de grandir dans cet espace culinaire, dans cet espace de libre expression aussi. Et là, ma mère a commencé à introduire quelques-uns de mes plats dans sa cuisine. Et elle a accepté en me disant, bon, maintenant, je pense que voilà, ça, on pourrait le faire. Et puis, bon, ma mère, c'est une femme très, très bienveillante. Donc, elle avait envie de m'accompagner et d'être là. Donc, elle l'a fait. Et à un moment donné, dans notre cuisine, c'était très dur. Je crois que c'était il y a 2 ans à peu près. Pendant la saison en été, il y avait vraiment énormément de monde. Et en même temps, en cuisine, on avait la difficulté d'avoir vraiment des gens qui nous suivaient dans cette énergie, parce que c'est pas si facile. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, on va être toutes les deux, j'ai envie d'être que avec toi en cuisine. Et on est restées toutes les deux avec 2 aides avec nous. Et là, on a commencé à être dans cette intensité d'une transmission. En fait, il fallait qu'on le vive toutes les deux ensemble, et ça a été extraordinaire. Et puis derrière, elle m'a dit, maintenant, je crois que tu as tes propres repères, tu as tes propres tonalités dans les goûts et dans les expressions culinaires que tu veux transmettre. Alors, je vais te laisser faire tes cartes, tes menus et tout ça. Et bien sûr, je suis là pour tout ce que tu as besoin que je fasse pour toi.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Wonderful, marvelous, you should care for me, awfully nice, it's paradise, how I long to be. My life so glamorous, you can bring me for feeling morose, wonderful, marvelous, that you should care for me, wonderful. Marvelous, you should care for me, awfully nice, it's paradise, how I long to be, you make my life so glamorous, you can paint me for feeling amorous, wonderful, marvelous, that you should care for.
Bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde sur RFI. Nous sommes avec Nadia Samut, chef de l'auberge La Fenière. C'est en Provence, dans le Luberon, dans le sud de la France. L'auberge La Fenière, également l'école de cuisine libre, et fondatrice de la marque Le Goût du Bonheur, parce que c'est une marque aussi qui juste ouvre son goût du bonheur à tous ceux qui veulent bien l'adopter et surtout au-delà de ça, le partager avec elle. Elle ouvre grand ses bras. On a dit au début de cette émission que vous travaillez beaucoup aussi sur le plan local. Vous travaillez, vous avez à cœur de travailler avec des gens et des producteurs qui sont au-delà du local, qui cultivent sans chimie, sans ajout de rien. Vous faites attention à tous les détails de la manière dont c'est produit. Vous êtes aussi attentive à faire renaître peut-être certaines céréales oubliées. Tout ça, c'est important. En fait, on pense à tout un grand monde avec un cercle vertueux instauré et qui tourne autour justement de vous, Nadia Samut.
Oui. C'est un écosystème. Je pense qu'on a le droit de choisir. Je crois que ça, c'est une des premières choses dans la vie. C'est fondamental. En tout cas, moi, c'est une exigence personnelle de résilience parce que voilà, je pouvais aussi ne plus être là. Donc, ce qui est important pour moi, c'est aujourd'hui de conduire au quotidien ça, pas de manière utopique, mais de le co-construire, de le construire. C'est pas facile hein, de monter des écosystèmes de ce type-là, être jusqu'au boutiste, etc. Mais je crois que c'est un très beau chemin et on est encore plus heureux à chaque fois qu'on avance dans ces étapes. Alors c'est vrai, la biodiversité, le respect de la gradation des sols, ça veut dire de nourrir les sols et de bien les respecter. Le respect de l'humain qui travaille avec nous comme de l'humain qui travaille sur sa terre, bien sûr. Ou du pêcheur d'ailleurs qui pêche chaque semaine. Tout ça en fait est un écosystème dans lequel il m'a été essentiel d'écrire les valeurs de ce respect et pour pouvoir complètement les intégrer de manière très naturelle dans l'ADN de mon travail au quotidien, qui n'est effectivement pas que la cuisine, mais dans la cuisine est le vecteur de ce monde au goût meilleur.
Mais n'est-ce pas le propre même de, je vais dire, l'aubergiste, de celui qui reçoit? Justement, de faire vivre son et construire un écosystème autour de lui.
Complètement, mais est-ce que l'aubergiste du 21e siècle est cet aubergiste-là? Donc, moi, j'intègre tout à fait ça, et même je suis même le restaurateur, celui qui restaure, en fait, le corps par le bien.
Et donc, vous avez aussi, vous travaillez quelqu'un qui élève des cochons Mangalica.
Oui, des cochons Mangalica, ce sont des cochons de race hongroise. Velus, hein, qui ressemblent à des moutons. On pourrait même les appeler les mouchons, si on voulait. Donc, et je travaille avec Chris Régnier, qui est effectivement dans le Luberon à Opède, et qui est venu il y a quelques années élever deux familles de cochons Mangalica. Et voilà, on a eu un travail commun où j'ai eu la chance de faire cette rencontre et que j'ai eu envie tout simplement de participer à son travail en m'inspirant effectivement de ce qu'il faisait et de le cuisiner effectivement aussi et aussi de l'apporter aux gens pour qu'ils puissent tout simplement pouvoir acheter cette viande qui est bien élevée, bien tuée, bien respectée en fait, voilà.
Du coup, vous êtes aussi parti avec un bâton de pèlerin pour redécouvrir votre territoire, redécouvrir les producteurs, les légumes qui y sont produits, les...
J'ai pris un bâton de pèlerin pour peut-être pas les redécouvrir mais pour leur dire que j'allais être là. Parce qu'en fait, les redécouvrir, non, c'est mon quotidien. Moi, en plus, j'ai fait mes études ici de collège. Donc, au collège, on a beaucoup de voilà d'amis qui sont des enfants d'agriculteurs et de paysans et qui ont repris les terres. Et quand j'ai dit que je revenais ici, il m'était de mon devoir que de participer à l'agriculture de mon territoire et ne pas la consommer, en fait. Je sais pas consommer les gens et je sais pas consommer les systèmes. Ça ne m'intéresse pas. Je cherche à m'impliquer en fait et à savoir quelle co-création on peut mettre en place, quelle manière on peut s'entraider ou s'interconnecter pour faire avancer nos volontés. Et pour moi en fait, je suis allée à la rencontre déjà de leur travail, de leur vie, du goût de leur terre et de ce qu'ils faisaient derrière, parce que effectivement moi je ressens tout, je suis très hypersensible. Et j'ai besoin de percevoir les choses pour savoir tout bonnement comment je vais accompagner ou en tout cas comment je vais pouvoir m'interconnecter sans gêner les systèmes des autres. C'est la relation simple en fait. J'ai pas envie d'être dans des relations toujours du chef qui, enfin en tout cas je prends pas cette position qui achète, qui fait ci, qui fait là. Je pense que je suis pas du tout là-dedans. Je suis vraiment dans cette co-création vraiment de vie. Aujourd'hui, quand on est ancré là, oui, il y a des producteurs d'asperges en ce moment, de fraises, de ci, de là. On n'a pas envie simplement de dire « Allô, est-ce que tu as des fraises ?» On a envie d'abord de savoir est-ce que d'abord tout va bien, qu'est-ce que je peux faire, comment on va pouvoir mieux distribuer les choses, est-ce que vous avez besoin qu'on imagine des choses ensemble. Voilà, tout ça pour moi, c'est un vrai une vraie réflexion permanente et j'y passe énormément de temps en fait.
Il y a un pan de votre manière de faire aujourd'hui, il y a évidemment les farines. Qui dit farine dit pain, dit pâte, dit gâteau. Avec quel type de farine vous travaillez? Comment est-ce que vous travaillez ce pain justement?
Alors j'ai après quelques années d'avoir justement travaillé des farines de plein de choses, d'ailleurs qui venaient pas toujours d'ici mais qui étaient issues d'un commerce équitable bien sûr et d'un respect total de la terre dans d'autres contrées, notamment ce qu'on disait tout à l'heure du tapioca, des choses, parce que j'ai beaucoup travaillé ici dans mon laboratoire. Eh bien, j'ai décidé effectivement d'acheter un moulin, un vrai moulin, sublime d'ailleurs, qui a été fait en France, en pierre et en bois. Et j'ai décidé d'écraser effectivement des céréales et des légumineuses issues de mon territoire ou de France pour le sarrasin, puisqu'aujourd'hui on commence à avoir du sarrasin dans notre région parce que les sols vraiment se sont acidifiés. Mais bon, les régions de sarrasin, c'est plutôt la Bretagne. On en a en Bourgogne aussi, mais voilà. Et j'utilise du pois chiche, de la châtaigne de colobrière, du pois chiche que je travaille avec le lycée agricole Pétrarque de l'Île-sur-la-Sorgue et Avignon, avec un vrai projet justement d'accompagnement agricole, et du riz de Camargue. Et grâce à ces quatre éléments que j'écrase dans mon moulin, avec un certain degré d'écrasement, un certain tamis pour avoir une granulométrie, etc. J'ai vraiment travaillé intensément là-dessus pour créer les bases de la construction de mes projets culinaires, de mes produits, de mes pains, c'est vrai, de mon levain, bien sûr, et de beaucoup, beaucoup de choses parce que ça a ouvert le champ des possibles. Et aujourd'hui, ce qui était important pour moi, c'était de dire qu'est-ce que j'ai autour de moi et qu'est-ce que je peux écraser pour en faire de la farine et derrière pour aller chercher des univers.
Oui, parce que c'est sûr, de toute manière, il vous fallait votre moulin pour lutter contre ces allergies. Il faut pouvoir contrôler à la source la farine. Donc, c'était important pour pouvoir avoir une page blanche et commencer à écrire.
Oh, complètement. C'est le départ du départ. D'ailleurs, le départ, c'est effectivement plus loin. C'est la semence, puis dans les terres, l'accompagnement agricole et la non-contamination par du blé ou tout autre céréale qui pourrait contenir du gluten, de ces légumineuses. Et par exemple, le pois chiche pourrait arriver en rotation sur des sols de blé. Donc, dans la moissonneuse, avoir une contamination, ça, c'est pas possible pour moi. Donc, il a fallu que je réfléchisse à quelle rotation, dans quelle rotation arrivait le pois chiche sur des champs, sur des productions, etc. Par exemple, quoi. Donc, non, tout ça est un vrai travail très minutieux pour créer mon écosystème et pour avoir effectivement tout de suite mes ingrédients de base. Et je les voulais propres, évidemment, sans pesticides, respectueux et tout ça. Donc, c'est un vrai investissement et un vrai engagement.
Comment est-ce qu'on vous a regardé au début quand vous êtes arrivé en disant bah voilà, je souffre de ça, donc j'ai besoin de pois chiches, de riz?
En fait, je pense qu'on s'est peut-être dit que qu'est-ce que j'étais en train de faire, mais comme je suis quelqu'un de ultra positif et de très enjoué, je n'ai jamais eu de regard sur moi très particulier. J'ai jamais senti de négatif autour de moi. Pour vous dire mon petit secret là-dessus, c'est que quand je sens le négatif, j'impose le positif. Donc voilà, c'est la vie en fait, c'est ma vie. Donc du coup, oui, peut-être qu'il y avait des espèces d'interrogations, mais quand il y a ce type d'interrogation, la meilleure manière d'y répondre, c'est de proposer une expérience. Donc j'ai proposé tout de suite l'expérience.
Oui, parce que ça suscite la curiosité de toute manière.
C'est exactement ça, oui.
Donc il faut se saisir de cette curiosité suscitée et dire vas-y, goûte.
Oui, il faut donner des émotions. On a le droit de le faire. Donc moi j'ai travaillé des nuits et des jours, des nuits et des jours. J'ai jamais levé la tête du guidon pendant 5 ans. C'est cette période qui vient de me le faire par obligation. Mais du coup, ça m'a permis de chercher, de ne pas arrêter de chercher et de ne pas arrêter de proposer aux gens, regardez, c'est possible, c'est goûtu, c'est ci, c'est là. Et effectivement, voilà. Donc, j'ai pas eu de temps de regard négatif ou en tout cas d'interrogation.
Ou d'inquiétude pour vous, parce que c'est vrai qu'on se dit, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y aura suffisamment de gens qui vont suivre, qui vont être avec nous?
En fait, moi, j'ai pris dans ma tête, tout de suite, je me suis dit, et c'est certainement mes voyages qui me font dire ça, et ma culture, mais Est-ce que les nouilles soba au Japon sont-elles moins bonnes que des pâtes faites à Naples? Ben, rien à voir en fait. Donc les deux expériences ont leur raison d'être et leur culture derrière tout ça et l'intensité de l'expérience qu'on a voulu leur donner. Et donc ben moi aussi, si j'ai envie de les créer à partir du pois chiche et que ce pois chiche est extraordinaire, j'ai tout autant envie de venir vous présenter une expérience de ce type. Donc je ne me suis absolument pas dévalorisée ou quoi. Au contraire, je me suis dit mais quelle chance incroyable que de créer ce monde là.
Bah, c'est jubilatoire, complètement. On doit passer son temps à se dire, ah, mais si je mettais ça avec ça, par exemple, les associations de farine, comment est-ce qu'on sait? Parce que j'imagine qu'on doit chercher à obtenir un peu de croustillant, un peu de goût de ceci, avec en deçà, un peu comme on construit un parfum, on va avoir une note
C'est
de
ça.
tête, une note de cœur.
Une note de fond.
Comme une note de fond, comment est-ce qu'on fait pour tout ça? Parce qu'on se dit, bah, il est super son pain, mais en fait, à l'intérieur, il y a plusieurs farines, un levain fait de telle farine aussi.
Ben pour être très honnête, c'est ça, c'est dans mon petit laboratoire, comme je n'ai absolument pas d'obligation de recette ou de technique de base, je n'ai pas à décomposer ou à substituer. Donc je ne m'impose aucune loi existante en me disant ça n'est pas ça ou voilà, déjà ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est que oui, ces assemblages, j'appelle ça des assemblages parce que je trouve ça très beau en plus, ces assemblages de farine sont des équilibres et sont des équilibres qui émanent effectivement de la compréhension que j'en ai de ces farines. Quand je les touche, quand je les ressens, quand je crée des mélanges, je vais tout de suite savoir si c'est trop lourd pour créer tel pain, telle pâte à choux, telle tarte, telle, je sais pas, tellement de choses, tel tempura, etc. Et en fait, je ressens ça. Moi, je suis très, très, très en lien avec tout ce que je touche. Et les farines, pour le coup, ça m'anime. Même quand je suis très fatiguée, je peux arriver dans la cuisine et tout à coup, c'est une révélation totale. Donc, c'est le vivant, en fait, qui fait ça. C'est cette interconnexion et cette interaction. Mais par contre, effectivement, je travaille vraiment comme le nez de parfum, avec une aide de tête, de cœur et de fond. Il faut dire qu'en fait, on a la chance aussi d'avoir des farines qui sont pas neutres du tout, qui ont souvent des odeurs, des goûts assez marqués, un pois chiche, une châtaigne, en Amérique du Sud, un quinoa, etc. Donc, tout ça, on va pouvoir en jouer et trouver justement, oui, des équilibres, des émotions. La farine de riz, elle va être plus subtile, elle va être granuleuse. Mais si on ne met qu'elle, on va trouver une somme de petits grains. Donc, non, il y a tout ça, mais il faut avoir l'envie d'observer ça. Moi, je suis complètement prise par ça. Ça m'envoûte, en fait. J'ai la chance d'avoir ça.
La châtaigne, c'est une farine que vous utilisez comment? Qu'est-ce qu'elle apporte?
Fermez les yeux. Qu'est-ce qu'on a derrière la châtaigne? On a ce goût un peu doux, presque sucré. Et souvent, quand dans mes cours de cuisine, puisque je donne des cours de cuisine chaque semaine et des formations professionnelles aussi, mais dans mes cours de cuisine, on ferme les yeux, je vois les gens qui goûtent et qui aiment ce goût sucré quelque part. Et pour certaines personnes, ça leur rappelle tout de suite quelque chose. La Corse, la châtaigne, voilà, c'est quelque chose pareil dans la culture. Donc, c'est important d'avoir envie aussi d'utiliser les goûts qui nous touchent parce que c'est comme ça qu'on va le mieux les révéler et les transmettre. Et la châtaigne, par exemple, dans un pain à la farine de châtaigne, on va pas utiliser énormément de châtaigne d'abord parce que sinon ça va densifier la mie de notre pain. On va avoir un développement un peu difficile entre guillemets avec le levain, mais on va avoir une réaction de Maillard sur la croûte qui va créer justement ce côté croustillant, etc., qui est sublime et avec une jolie couleur et un goût derrière. Si on est à 20% entre guillemets de la châtaigne, 30%, on va avoir ce goût, cette couleur de la mie et cette odeur. Voilà, moi j'adore mon pain à la châtaigne. Ce que j'adore faire, c'est le mettre dans la poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive et le laisser juste prendre comme ça, rôtir. C'est délicieux, quoi. Et voilà, et c'est aussi ce qui révèle les goûts. Donc c'est important de, voilà, de effectivement de trouver les énergies aussi des éléments. C'est très particulier. Il faut prendre le temps de comprendre. Moi, par exemple, quand les gens prennent les cours avec moi, je leur propose de faire une espèce d'orgue à farine, comme un orgue à parfum. Et comme ça, on a toujours ce lien avec un échantillon même de toutes ces farines. Pour se rappeler, est-ce qu'elle est friable, est-ce qu'elle est dense, est-ce qu'elle a ce goût-là, est-ce que ça me plaît, etc., etc., etc. Et tous ces, en fait, toutes ces bases, on les crée. C'est pour ça que je fais une cuisine libre, parce que on a sa libre expression aussi, et ça, c'est fondamental. On n'a pas tous la même perception des goûts. Et ouais, c'est important d'avoir aussi, quand on touche au sens quand même, cuisiner, c'est quand même extrêmement sensible. Et puis après, quand on devient créateur, encore plus. Et je crois qu'il faut laisser un petit peu la chance de percevoir et d'y être très sensible. Moi, j'ai beaucoup de collaborateurs qui sont jeunes et qui sortent à peine de l'œuf là, pour travailler avec moi. Je les amène à cette perception de cette liberté. Ouais.
La cuisine libre, c'est quoi la cuisine libre?
La cuisine libre, c'est d'abord, c'est une cuisine qui libère ses contraintes pour libérer sa créativité. C'est une cuisine effectivement sans gluten, évidemment pour moi, mais c'est une cuisine libre de dictat et elle est forte de sens. Et j'aime dans cette expression, et qui est une marque aujourd'hui pour moi, d'un travail et d'une recherche, aussi ce non comparatif en fait. On ne peut pas comparer les choses et il ne faut pas le faire pour être dans cette liberté. Et c'est fondamental parce que si je n'avais pas vu ça de cette façon-là, j'aurais toujours estimé que l'expérience culinaire que je crée serait entre guillemets l'anti-expérience culinaire que j'aurais dû goûter avec tels et tels ingrédients plus conventionnels.
On n'est pas tout à fait dans l'opposition.
Non, jamais.
On a un autre regard.
Exactement, l'autre regard du prisme.
Et d'ailleurs, c'est Pierre Hermé, à la cérémonie des Michelin, qui avait raconté qu'il avait cuisiné des gâteaux, et des gâteaux sans gluten, tenant compte des allergies possibles.
Oui.
Et que tous les enfants s'étaient précipités sur la table pour manger les gâteaux, évidemment, parce que qui résiste à un bon gâteau?
Oui.
Et c'est ce qu'il a retenu. Et quand il l'a raconté, il avait beaucoup d'émotions. Faut dire qu'enfin, il n'y avait pas d'interdit.
C'est ça. J'ai beaucoup parlé avec Pierre, que je connais bien, effectivement. D'ailleurs, qui m'avait fait intervenir il y a quelques années chez Relais et Desserts dans leur convention et avec tous ces pâtissiers. Et j'avais justement exprimé ce qu'était cuisine libre et comment chacun de nous et chacun des pâtissiers pouvait réinventer ou faire évoluer, si ce n'est réinventer, cette pâtisserie vers l'inclusion en fait et cette cuisine ou cette pâtisserie libre qui a beaucoup de sens en fait et qui peut considérer l'environnement comme la biodiversité, le peu de sucre comme d'autres farines et l'inclusion parce que justement ça correspond à tant de gens autour de nous quoi.
Commensal.
Oui.
En deux mots.
Commensal. Donc commensal, c'est la commensalité et le partage à table. Et Commensal, c'était les confréries d'agriculteurs dans le Luberon. Et Commensal, c'est une entreprise que j'ai créée il y a exactement 9 mois avec mon compagnon Ernest. Et Commensal, c'est une entreprise de meunerie, boulangerie, pâtisserie, sans gluten, sans lactose et végétale, qui est insérée sur le territoire de la région sud, c'est-à-dire ici dans le Luberon pour moi, et qui va proposer une expérience culinaire et gustative vivante et de qualité pour tous, sans exclusion. Je fais des gâteaux, je fais de la farine, je fais beaucoup de choses, je fais du pain et je livre la France entière en fait avec ce produit-là. C'est extraordinaire parce que c'est une entreprise très très vertueuse. C'est une entreprise qui travaille son territoire, qui essaye de porter une filière agricole, puisque c'est ce que je fais actuellement, qui sait se réinventer de manière permanente. C'est ce que la situation nous a demandé de faire aujourd'hui. Et c'est passionnant. Tout a du sens. Tout ce qui est choisi, tout respecte l'ADN de ce dont vous avez parlé au départ de l'émission, c'est-à-dire l'environnement, l'écosystème, l'humain, le zéro déchet, tout ça. Et ça, c'est pour moi, c'était c'est réjouissant. Et puis c'est fort de sens parce que le matin, je me lève pour diriger une entreprise tellement extraordinaire, en fait. Voilà, je l'ai fait et je suis fière parce que je suis fière de pouvoir la partager et je suis fière de les aimer aussi parce que ce modèle-là, moi, Commensal, c'est pas voué à l'export, mes ingrédients et ni mes produits. Par contre, l'idée et le process de fabrication et le type d'entreprise est essaimable. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'accompagne des commensales qui vont naître ailleurs, mais qui vont porter une filière agricole dans un autre pays et qui vont créer des spécialités du coup culinaires comme je l'ai fait dans ma région à partir d'ingrédients d'autres pays. Je crois que c'est ça l'énergie de demain.
Commensales, ça a été aussi des merci adressés au personnel hospitalier.
Ah ben oui. plus que jamais, évidemment. C'est des merci au personnel hospitalier, c'est des pâtisseries qu'on a fait et qu'on a eu la chance de faire parce qu'on a j'ai mis en place une cagnotte et que les gens ont tout de suite financé ces pâtisseries qui étaient une pâtisserie 2 euros pour un soignant et j'ai livré en tout à peu près 4000 pâtisseries dans les hôpitaux alentour, c'est-à-dire Marseille, Aix-en-Provence, Cavaillon, un petit hôpital à côté de chez moi à Loris. Voilà, c'était super important de le faire. D'abord parce que quand on l'a fait, cette cagnotte nous a permis d'acheter les ingrédients aux agriculteurs qui eux aussi travaillaient pendant ce temps-là et qui eux aussi travaillent leur terre tout au long de l'année. Donc j'avais besoin d'avoir ce rapport-là, voilà, pour d'être au centre vraiment du projet. Et puis commensal, ben pareil, ça m'a permis de proposer à deux de mes collaborateurs de venir à travailler une partie de leur temps au lieu de faire autrement. Mais c'était important, ouais.
Nadia, est-ce que votre expérience et votre connaissance et votre chemin, vous le partagez également avec des responsables de la santé, des médecins aujourd'hui, des industriels de l'agroalimentaire? Là, je fais un grand saut, mais est-ce que ça essaime, et ne serait-ce que dans le milieu médical?
Bien sûr, d'abord, un, je me dois de le faire parce que tout ce qu'on a la chance, à un moment donné, d'avoir de raison et d'expérience, ces retours d'expérience-là sont fondamentaux aussi pour faire avancer la connaissance des choses et peut-être les process voilà d'accompagnement. Oui, je forme depuis des années sur l'accompagnement thérapeutique du patient, sur quelque chose que j'avais appelé culinothérapie, l'art d'accompagner le patient par le plaisir et pas par le régime, parce que effectivement j'estimais qu'on parlait beaucoup de régime dans la santé et que je trouve ça assez déplorable parce que c'est pas le mot, je pense, qui convient à l'état de vie sociale et de vie tout court pour le corps, en fait. La privation des choses ne fonctionne pas. Je crois qu'on peut créer des univers avec des ingrédients autres tout le temps. Et du coup, oui, je forme. Et puis, j'ai aussi accompagné des patients, des enfants, des adultes, dans l'allergie ou dans d'autres choses, d'ailleurs, sur l'alimentation, des personnes qui ont le cancer. Voilà, ça, c'est mon quotidien et ça va devenir encore plus mon quotidien parce que j'en ai besoin. Je me sens totalement à l'aise dans ce rôle-là et c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup parce que c'est peut-être quelque chose dont j'avais besoin moi à l'époque, donc c'est essentiel.
J'allais vous demander, et demain?
Et demain,
On y est
on
dans
y est,
demain, là.
On est déjà là. La suite se construit dans l'instant, donc on y est.
Alors, il y a une tradition dans le goût du monde, on demande toujours à notre invité de partager avec nous un ustensile et un ingrédient.
Un ustensile... J'aurais envie de peut-être de partager ma pince que j'adore. Dans ma cuisine, je cherche toujours ma pince.
La pince pour les cheveux.
Ouais, c'est ça, ouais. Ma petite pince pour poser mes jolies fleurs. Et un ingrédient, j'aurais envie de parler de ma farine, effectivement. C'est ou mon non, plutôt mon levain. C'est ma vie, le levain.
Ah, le levain. C'est la vie du pain, c'est la vie de la pâte, le levain. Est-ce que c'est facile ou dur? Vous partagerez avec nous une recette pour faire son levain?
Ouais, avec plaisir. C'est pas dur, en fait. Le levain, c'est de la tension. Mais à partir du moment où on est en phase, on arrive à avoir de la tension pour un levain. Donc, le levain, c'est du temps, c'est la vie.
Merci, merci Nadia.
Merci à vous surtout.
Merci pour ce partage. Pour vous retrouver, c'est sur le site de l'Auberge de la Fenière en Provence. Les cours de cuisine, les farines, les découvertes, tout y est. Et ce livre chez Actes Sud, bien sûr. Le sourire va nous accompagner, l'enthousiasme aussi. Et vous, comment ce témoignage vous a-t-il nourri? Comment a-t-il fait écho chez vous? Racontez-nous sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66. Merci beaucoup à Cécile Bonissi qui a réalisé ce goût du monde. Vous pouvez aimer, partager l'émission à l'envi. Merci de votre fidélité. Et rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. Musique du monde.